un gigantesque carreau poubelle perdu dans une mer déchaînée. Sous l'effet de la houle commence à céder. Mayday, mayday, à deux doigts de couler. Déjà trop tard, c'est avant qu'il faut s'inquiéter. L'or noir commence à couler à flot. C'est peut-être pas nouveau mais encore une fois de trop. Et qui fera l'effort de se baisser encore pour ramasser par belle vos putains de poubelles. On ira tout danser quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. L'idée du pollueur payeur est un pic qui nous plaît bien. Mais nous ne sommes pas assez fous pour croire en tout vos baratins. À chaque fois c'est pareil, un peu d'émotion télévisée et quelques paroles en l'air devraient suffire à nous calmer. On ira tout danser quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. Un beau jour on vous le rendra. Un beau jour on vous le rendra. On ira tout dans ce camp.
Hier findest du echt nie einen Parkplatz.
Viertelstunde gerade rumgeguckt.
Hab ich dir ja gleich gesagt, dass die Karre für die Stadt zu groß ist.
Ja, ich wollte auch einen kleinen nehmen, aber Conny ist damit zum Stau. Na, Männer? Na? Kann ich ein kleines Bier bekommen, bitte? Außerdem ist der Wagen so geil. Ich fahre jetzt den neuen 450.
Geil, okay. Oder?
Was für ein Geschoss. Letzte Woche Hamburg, 1,5 Stunden, aber total entspannt. 240 auf der Autobahn, du hörst keinen Mucks.
Ist ja wie im ICE.
Ja, wie im ICE, aber ich habe meine Ruhe.
Das ist der Unterschied.
Was verbraucht das Ding?
Mir egal, das zahle ich eh nicht.
Außerdem fährt deine Bahn ja auch nicht mit Ökostrom, oder? Was ist mit dir? Bist du mit dem Klapprad da?
Nee, aber ich bin neulich mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das ging eigentlich total gut. Das will ich demnächst auch mal wieder machen.
Hier, apropos Ökostrom, was du mir da neulich empfohlen hast. Ne? Ja. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja viel teurer.
Du, aber es gibt Anbieter, die sind richtig.
Ja, aber letztendlich kommt aus der Dose immer das Gleiche raus. Strom.
Ja, ist klar. Dein Strom kommt aus der Steckdose und qualmt und stinkt nicht.
Vielleicht hast du sogar recht. Aber deine Energiesparlampen machen beschissenes Licht. Ich meine, soll ich da im Winter auch noch die Heizung runterdrehen?
Vous êtes sur l'émission Zoom Écologie, sur la fréquence 106.3 FM, écoutable aussi sur Internet en stream. Et aujourd'hui, nous allons aborder, en compagnie de Rebecca. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
De Cyril et la technique, et de moi-même, Johan, le sommet de Copenhague, un vaste sujet, car on entend beaucoup parler actuellement et il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup d'informations à récolter, car il y a actuellement environ 192 pays en discussion et sur un sujet qui nous touche tous, l'avenir du climat. Rien que ça, donc l'avenir de la planète, c'est un grand mot, ça nous concerne tous. Cela explique l'enjeu lancé durant cette conférence, durant ce sommet. Le seul petit souci, c'est que la conférence de Copenhague n'est pas du tout quelque chose de simple et n'apparaît pas clairement pour la personne moyenne. On entend beaucoup parler. C'est surtout l'aspect politique et économique qui en ressort. Mais les enjeux écologiques commencent à être un petit peu dépassés. Et d'ailleurs, beaucoup d'associations ont un petit peu jeté l'éponge en disant de toute façon, en gros, on attend peu de choses de concret de la part de cette discussion. Et cette conférence, appelée par son petit nom la COP15, car c'est la 15e du nom, qui traite du sujet du problème climatique, a peu de chances d'aboutir sur réellement quelque chose de concret. Donc déjà, beaucoup d'associations ont prédit une issue peu constructive. Malgré tout ça, nous avons quand même beaucoup d'associations sur place, de gens motivés qui se sont déplacés, en plus des participants officiels retranchés dans leur lieu de conférence. Et d'ailleurs, nous parlerons aussi de ce sujet-là, car la conférence de Copenhague coûte très cher, aussi bien en argent que sur le plan carbone.
J'ai entendu dire que ça coûte 400 billions ou millions d'euros.
Oui, quelque chose comme ça. C'est impressionnant, surtout que... Il y en a pas mal qui utiliseront l'avion pour venir. Bon, ça se comprend un petit peu pour les États africains ou ceux qui habitent très loin. Mais bon, on peut aller en voiture ou en car ou en train. Il y en a qui le font parmi les adhérents d'associations. D'ailleurs, je crois qu'il y a un train qui est prévu pour le samedi 12. Et donc, c'est parfaitement possible. Et de ce côté-là, c'est pas vraiment très représentatif de nos participants officiels à cette conférence.
Moi, j'ai même entendu dire, et même j'ai vu une photo, qu'il y a quelqu'un qui est venu à Copenhague en vélo depuis l'Australie.
Oh là là.
Il s'appelle Kim Nguyen, qui a décidé qu'il voulait venir à Copenhague. Il a décidé de venir en vélo. Il a passé par... Évidemment, ça a dû prendre plusieurs mois. Et il y a plusieurs personnes aussi qui l'ont rejoint pour son dernière étape. Donc, évidemment, cette action à vélo est aussi... Une façon de manifester aussi symboliquement sur nos modes de vie et nos engagements par rapport
à... Oui, le vélo, c'est quand même quelque chose... on le sait à Paris, hein, avec le Vélib, hein, ce qui remporte un certain succès, d'ailleurs. Donc, et puis, Copenhague, aussi, une ville très, très portée sur le vélo. Hein.
Mais ça me fait penser justement à ce qu'on entendait en fond d'émission, au début de l'émission, cette petit clip que je suppose que tu n'as peut-être pas très bien compris, que c'est en allemand.
Oui, hein, oui, c'est en allemand. Je ne parle pas l'allemand, malheureusement. Et oui, ce petit clip...
Je l'ai vu sur Internet l'autre jour, et avec la traduction française. Et en fait, ce qui se passe, c'est trois personnes, trois amis allemands qui se retrouvent dans un bar, qui sont juste sur le point d'aller boire un film.
Plutôt occidental d'ailleurs, aisé, on va dire commun.
Oui, cool, blanc moderne. Aussi, ils étaient blancs.
Oui, blanc,
il faut le préciser quand même. Qui se sont retrouvés pour boire un verre avant d'aller au cinéma. Et donc, le dernier qui arrive, il a eu du mal à se garer parce que sa voiture...
Très sportif, hein, d'ailleurs, comme personne.
Très sportif, pas mal quand même. Plutôt...
Dynamique, on sent qu'il aurait une voiture de sport, quelque chose comme ça.
Donc, il parlait tout de suite, oh, comment c'était difficile de garer sa voiture 4x4, mais il disait comme c'était un bonheur de le conduire. Donc, il évoque déjà cette nouvelle voiture qui lui fait très plaisir. Après, ils enchaînent sur les différents modes de transport. Il y en a un qui dit qu'il est allé au travail en vélo.
Oui.
Et que l'autre, il a bien ri quand lui disait ça, comme si c'était vraiment ridicule. Mais en fait, c'était plutôt sympathique. Je pense que je vais répéter l'expérience.
Et oui, d'ailleurs, de ces trois-là, c'est peut-être celui qui paraissait le plus simple, ou du moins le moins... le plus en retrait et le plus, on va dire, banalisé de des trois, les deux autres étant plutôt typés dans celui avec la 4x4, le 4x4 très chemise blanche, claire.
Très chic. Hein. Très chic. Comme s'il avait quand même dépensé pas mal d'argent dans son habit.
Peut-être une représentation du jeune cadre dynamique, en fait.
Oui, c'est ça. L'autre, il était un peu plus, comme tu dis, un peu plus simple, mais... Mais enfin, comme après, j'enchaîne sur leurs différentes... ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances.
Oui, oui.
Et il y en a un qui est allé aux Baléares, et l'autre disait, oh, les Baléares, c'est vraiment démodé. Et lui, il est allé en Nairobi. Ils ont fait le tour de toutes les tribus. Ils ont été partout en 4x4. Et ils ont même joué au golf dans le désert, et ils étaient en train de dire comment c'était vraiment génial et tout. Et l'autre, celui qui est allé au travail en vélo, disait, bah, nous, on est allé dans une ferme en Roumanie.
Et en plus, en voiture. C'est ça qui était étonnant.
En voiture, et on lui a dit, c'était vraiment génial, toute l'alimentation était bio, et c'était la nature, et quel bonheur. Et l'autre, avec le 4x4, lui dit,
il se moquait bien.
Combien de temps ça t'a pris? Il dit, 39 heures, et tout le monde se moque de lui et se marre. Enfin, ça s'enchaîne sur toutes leurs différentes façons de vivre, leur mode de vie, leur choix commercial ou leur choix, en gros. Et à la fin, ils demandent l'addition parce que c'est l'heure de
partir. Oui, parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi tout ça, hein, parce que c'est vraiment une discussion banale qu'on peut avoir dans un bar entre trois personnes qui se connaissent, trois amis, et qui comparent un petit peu leur vie, les vacances, leur vie de tous les jours, et puis leur transport quotidien, quoi. Et là, c'est la surprise. Quand la serveuse arrive pour présenter l'addition, on comprend, car on ne parle plus d'euros, mais on parle d'équivalent carbone. Et là, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais bon, on met bien en évidence que les niveaux de vie produisent énormément de carbone, et que malheureusement, ce ne seront pas eux qui vont payer l'addition, comme ils le disent dans le clip. Comme d'habitude, ce seront la table de côté qui devra payer l'addition.
Oui, c'est qui va payer, et ce n'est pas eux, c'est le collègue d'à côté. Et ils font signe sur les gens qui habitent à côté, enfin, qui sont sur la table à côté.
Et là, c'est misère.
Un jeune Africain et un jeune Indien qui font un petit coucou symbolique, et en fait, c'est eux qui vont régler leur addition des plusieurs voitures qu'ils ont louées,
les voyages en avion,
les milliers de litres d'eau qui ont arrosé la pelouse de golf en Afrique, et tout ce qu'ils ont consommé pendant leurs vacances. Ça se traduit par des chiffres de ce que ça coûte réellement. Voilà. Pour la planète, au niveau de carbone et d'eau, etc. Enfin,
c'est un clip
quand même schématique, mais c'est assez choquant quand on...
C'est un clip assez symbolique, en fait, de l'enjeu du sommet de Copenhague.
Et puis tu te rappelles la fin, la toute fin, ils se sont retrouvés dans le bar, mais quelques années plus tard.
Ah non, je ne me souviens pas.
Et à la fin du clip, ils se retrouvent dans le bar, et au lieu d'être... eux trois avec deux personnes à côté, le bar il est rempli de gens avec des enfants, tout le monde entassé.
Ah, oui,
et
effectivement,
ils parlent de qu'est-ce qu'ils vont faire pour leurs vacances. Ben, ils ne peuvent plus aller au Baléares parce que c'est déjà inondé. Et donc ils décrivent le monde dans quelques années qui n'est plus le même parce que le climat n'a pas changé, c'est-à-dire que ça continue à changer et on n'a rien fait. Et puis
finalement,
le monde n'est plus le même et on ne peut plus continuer à avoir le mode de vie
auquel
on s'était habitué.
Et ça traduit bien tout l'enjeu de Copenhague sur le sujet. Donc, on va continuer sur le thème.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... C'est très difficile de faire la part de tous les enjeux de Copenhague. Pourquoi déjà on s'occupe du climat et le réchauffement de la planète?
Déjà,
quel est le vrai problème?
Le vrai problème, c'est déjà que c'est un problème qui date depuis longtemps, parce que le souci du climat a déjà été abordé dans les années 70 par quelques scientifiques. Il y a eu quelques conférences aussi, donc il y a quelques personnes qui se sont rendues compte que l'homme avait un petit impact peut-être à cette époque-là sur le climat. Donc il y a eu quelques ersatz de conférences qui ont fini par aboutir à la première conférence sérieuse, celle de Rio en 1992, qui, comme par hasard, correspond à la décennie la plus, une des décennies les plus marquantes au niveau de la pollution, et qui sert de référence actuellement pour justement établir les pourcentages de réduction par pays des années 90. Et donc l'enjeu, le climat a été un souci qui a été pendant longtemps mis de côté, mais qui a monopolisé quand même un certain nombre de personnes qui ont pris maintenant de l'importance parce que maintenant les choses sont visibles alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Alors je me souviens même d'un bouquin qui date de 1975. Et qui justement traite de l'augmentation de la part de certains gaz dans l'atmosphère et qui commence à émettre l'hypothèse de l'impact anthropique, de l'entropie sur le climat. Et donc c'est un sujet qui date depuis longtemps. Et le souci, c'est que, comme il est défini, le climat, c'est un bien commun de l'humanité. Donc,
De la Terre, tout simplement,
effectivement. Bien que la Terre, c'est la biosphère Terre, contrairement à ce qu'on voudrait croire, n'a pas besoin de l'homme pour vivre. N'a pas besoin de l'homme pour exister, donc la biosphère Terre peut très bien se passer de certaines espèces vivantes, comme elles sont dépassées l'espèce préhistorique, les dinosaures, pardon. Il y a eu une première extinction d'espèces. Donc, en gros, on ne joue pas l'avenir de la planète, mais l'avenir de l'humanité, d'un certain côté, avec le climat, on joue gros. Et c'est quelque chose qui rentre en jeu aussi d'un point de vue économique, parce que justement, le climat, en se déréglant, a de forts impacts économiques, et ceux qu'on prédit pour l'avenir seront encore plus démentiels, au point où on estime que, enfin, que le GIEC, ces représentants de la science de la climatologie, qui a reçu le prix Nobel en 2007 pour son travail, et qui regroupe, je crois, 2500 scientifiques de tous bords, en fait. Hein. C'est plus un consortium de scientifiques qui sont à peu près d'accord sur les conclusions données. Et donc, eux, ils estiment que si on continue comme ça, si on produit de plus en plus de carbone, de CO2, qui est un indicateur, en fait, hein, parce qu'on produit de types de pollution, rien qu'une voiture produit plusieurs types de gaz toxiques. Donc ils estiment que si on continue à la vitesse où on va, plus si on partage nos technologies actuelles dits polluantes avec les pays émergents qui ont droit aussi au développement, on s'en sortira pas, tout simplement. On va vers une augmentation très supérieure à ce qui est admissible par la planète pour conserver un climat viable pour l'humanité. Voilà. Donc l'enjeu est là.
Et il semblerait que cette augmentation de production de carbone s'est accélérée ces dernières années, par exemple dans les 10 dernières années.
C'est un point d'ailleurs qui pose problème parce qu'il est souvent remis en cause par les anti-réchauffement climatique, enfin antithèse du réchauffement climatique, et même parmi
ceux qui ne croient pas à cette thèse.
Voilà, ceux qui ne croient pas que l'homme soit complètement responsable du réchauffement climatique. Et d'un certain côté, ils ont un petit peu raison parce qu'on ne peut pas apporter des preuves en dur, directes. Prouvant le réchauffement climatique, ce sont que des estimations, des statistiques, etc. Mais bon, quand on se rend compte un petit peu de ce qu'on produit et qu'on le multiplie par le nombre d'habitants, on peut se rendre compte que quand même ce sont des quantités phénoménales, qu'il est impossible qu'il n'y ait pas un impact sur l'environnement. Le souci, c'est qu'il est très difficile d'estimer l'avenir. et d'estimer aussi les conséquences. La nature a plein de mécanismes de protection. Et c'est un petit peu là-dessus que se basent les anti-réchauffements, antithèses réchauffement climatique, parce que ils supposent que ça a déjà existé, que ça, qu'on est peut-être dans une phase ascendante ou descendante, mais que c'est plus ou moins naturel. Et là-dessus, les pro-réchauffement climatique disent peut-être, effectivement, c'est peut-être pas complètement d'origine humaine. On est peut-être dans une phase ascendante ou descendante en température globale, mais l'homme rajoute un impact certain qui accélère la montée ou la descente en température. Alors le problème, voilà, il est là, c'est que si ça monte trop vite ou ça descend trop vite, c'est le choc thermique. Et là, il y a beaucoup, énormément, quasiment toutes les espèces qui sont impactées. L'exemple le plus simple, ça peut être les tortues qui ont besoin d'une certaine température.
On a vu qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître très rapidement.
Effectivement.
Et puis on a aussi constaté qu'il y a eu des catastrophes, soi-disant des naturelles, mais qui ont l'air de se démultiplier beaucoup ces dernières années. Les inondations, les sécheresses, tout ce qui sont des effets climatiques très extrêmes. Aux États-Unis,
en Amérique latine, où il y a un endroit, il y a la couche d'ozone qui est assez altérée, où on relève des températures assez inquiétantes. Il y a des déserts qui avancent, la forêt qui recule.
Mais la forêt qui recule, ça, c'est plutôt l'action de l'homme qui.
C'est
qui
action fait de l'homme aussi.
Parce qu'une forêt ne disparaît pas comme ça.
Non,
sauf quand il y a des feux, mais en général aussi.
C'est là que l'aspect économique rentre en jeu. L'impact de l'homme et aussi l'économie qui se met en place va avoir un impact certain sur l'avenir écologique de l'ensemble l'ensemble des espèces qui en sont liées. Et du même coup, c'est là qu'on se rend compte que. On joue pas le présent, mais on joue l'avenir.
C'est notamment les forêts sont la destruction des forêts est responsable d'un dégagement d'une grande quantité de carbone, de CO2, parce que
c'est
ça retient une bonne partie du carbone. Et le fait d'abattre ces arbres, ça dégage tout d'un coup une grande quantité. Qu'on peut pas remplacer, enfin, on peut pas de nouveau la réemmagasiner, magasiner tout de suite parce que le temps que ça prend pour replanter des arbres. Et en général, les forêts qui sont abattues, c'est pas pour replanter des arbres, mais pour planter des céréales pour nourrir la bataille. Et ça aussi, apparemment, l'industrie notamment de agroalimentaire dans le sens de la production de viande est aussi extrêmement polluant et émetteur de gaz à effet de serre.
Toutes les industries de grande taille, massives, la massive économie, on peut l'appeler comme ça, où une production en chaîne très structurée, où chaque... tout est chiffré, les entrants, les sortants... Le temps même qu'on donne aux animaux pour grossir, les produits qu'on leur donne, toutes ces industries-là qui sont dites à grande échelle et massives ont un impact certain parce que c'est facile à comprendre. Quand on a une vache dispersée dans un pré, on sait à peu près ce qu'elle va manger et ce qu'elle va produire. Quand on en a 1000 dans un espace restreint, l'impact, il est immédiat. Hein. C'est un grand problème. Et ça, c'est lié à nos modes de vie modernes de pays riches qui sont les principaux responsables, malgré tout. Enfin, malgré tout, j'ai dit malgré tout, parce qu'actuellement, l'Europe se présente comme un pays en avance sur les négociations, mais en réalité, c'est plus un jeu de dupes, et on se retrouve avec une négociation assez difficile.
Oui, parce qu'en concrètement, qu'est-ce que les négociants, les membres des États sont en train de proposer comme solution pour ce que nous avons apparemment créé avec nos actions, avec notre mode de vie dans les pays industrialisés? Donc on a évoqué tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant, parce que ça a l'air d'être assez enfin, catastrophique comme scénario si on continue comme ça et les gens continuent à, bon, pas seulement dans les pays industrialisés, mais dans les autres pays émergents, si tout le monde aspire à avoir ce mode de vie, et ça va pas décélérer.
Donc, c'est bien ça le problème, c'est que les pays émergents veulent le même mode de vie que nous. On peut pas leur empêcher, on peut pas d'une manière juste leur refuser. Le souci, c'est que nous, pour arriver au mode de vie où nous sommes arrivés actuellement, il a fallu beaucoup polluer. Hein. Les 30 glorieuses françaises ont énormément pollué, ce qui a aussi été une raison de la délocalisation d'un certain nombre d'industries. Et les pays émergents sont dans cette période-là où le prix à payer pour avoir un niveau de vie au même niveau que le nôtre nécessite de produire industriellement énormément et donc polluer énormément. Les deux sont liés. Hein. Dans les objectifs de Copenhague, c'est un petit peu le problème, c'est que donc on a 192 pays, mais c'est divisé en plusieurs groupes. Hein. On a les principaux qui sont les Américains, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont les principaux pollueurs hein, actuellement, donc qui essayent de trouver un point d'entrée, ne serait-ce qu'un point d'entrée commun à la négociation. Et donc, ils souhaiteraient aboutir sur un accord qui relance comme possibilité la bourse carbone, par exemple. C'est cette fameuse bourse qui a été mise en place au niveau de l'Union européenne, mais qui est un échec flagrant, parce que c'est une...
C'est-à-dire qu'on a commencé à vendre du carbone, c'est ça ?
Voilà, on met aux enchères... on pollue tant, on a un permis de polluer de temps, vous êtes un pays plus petit, vous avez peu d'industrie, vous polluez pas beaucoup, donc on va vous racheter du permis de polluer. Et au final, ça ne devient pas viable parce que tout le monde pollue autant. Et en plus, c'est estimé à un certain prix, la tonne de CO2. Et les prix s'effondrent actuellement. Donc du coup, ça ne sert à rien.
Oui, du coup, l'effet, en fait, les pauvres pays, enfin, on va dire les pays qui n'ont pas encore les capacités de polluer autant que nous, ils vendent leur droit à polluer aux autres qui continuent à polluer autant. Et pour eux, c'est un petit prix à payer pour continuer à gagner de l'argent comme ils entendent depuis...
C'est bien le problème des bourses. Les bourses économiques, c'est que ça joue beaucoup en bourse et du coup, on a peu d'efficacité. On va faire une petite pause musicale. Et puis, on reprendra après sur le thème de Copenhague, une conférence qui n'est pas simple du tout, en fait.
Donc moi, j'ai été en contact avec Sven-Derik Larsen, qui est un officier de police à la frontière germano-danoise. Donc, parce que nous, on a reçu des informations qui disaient que la frontière avait été fermée. Donc lui, en fait, nous a expliqué que la frontière n'avait pas été fermée. Par contre, qu'il est vrai qu'ils font des contrôles de plus en plus fréquents est beaucoup plus poussée que la normale à la frontière avec l'Allemagne. Alors quand on a essayé de connaître un peu les critères de contrôle, il nous a répondu que d'une part, les critères, il devait les garder pour lui, donc il se refusait de faire des commentaires. Mais finalement, au cours de la discussion, il a fini par dire qu'il y avait une coopération plus spécifique avec la police allemande et avec la police suédoise, puisque en l'occurrence, on a l'impression que le même genre de contrôle ont lieu à la frontière suédoise et également avec le réseau européen de coopération policière, et qu'ils étaient à la recherche essentiellement des militants qui avaient eu des soucis avec la police à Helgeldam, à Malmö, à Göteborg et à Gênes. Ce qui est étonnant, c'est qu'il nous a dit que donc, le contrôle a commencé depuis 3 heures de l'après-midi. Et il nous a dit que jusqu'à présent, personne n'avait été refusé, alors même que nous, on a des témoignages qui nous disent que certains militants ont été refusés à la frontière allemande. Officiellement, il y a juste des contrôles, comme le prévoit, comme l'autorise les accords de Schengen. Il n'y a même pas, en fait, il dit qu'il n'y a même pas une suspension des accords de Schengen, que juste, ils ne font que exercer, que appliquer les droits qui leur sont accordés dans les lois de Schengen.
Alors, c'était pas une pause musicale, mais c'était encore mieux, parce que ça va permettre d'aborder un sujet, le sujet annexe à Copenhague, qui est bien plus intéressant, parce que le Copenhague, ça va être une grande conférence de politique, plus qu'autre chose, ce qui rend d'ailleurs la conférence très opaque. Et là, ce que vous avez entendu, en fait, c'est un témoignage d'une personne parlant du dispositif organisé au Danemark pour la conférence de Copenhague, et il s'avère qu'il y a du filtrage.
Et pourquoi filtrer quoi ?
Eh bien, on filtre les participants, militants ou activistes qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire enfin, qui viennent vers Copenhague pour participer à ce qui va se passer à côté de Copenhague. Il va y avoir le sommet, mais à côté, il y a plein de choses qui vont s'organiser. Et du coup, apparemment, il y a une petite crainte, apparemment, parce que c'est un tel point. Apparemment, les organisateurs du sommet de Copenhague ont une petite crainte. Ils ont peur que ça déborde peut-être un petit peu comme à Strasbourg. Donc ils ont organisé tout un dispositif policier au sommet, mais aussi aux frontières. Et du coup, dès que vous arrivez à la frontière allemande, à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark, vous êtes suivi. Et c'est déjà quelque chose qu'on a déjà parlé, déjà entendu parler, même en France, où quand vous prenez le train en direction de Copenhague, il y a un certain suivi des personnes. Alors, je pense que sur ça, Rebecca, tu as plein d'informations.
Oui, j'avais entendu dire quelque chose. Bon, déjà, j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau loi qui était passé très récemment, qui était passé en Danemark pour permettre aux policiers de arrêter et retenir des personnes presque sans aucune raison concrète, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir simplement le soupçon que quelqu'un va peut-être faire quelque chose de criminel et qu'ils peuvent l'arrêter, et au lieu de les garder que 6 heures, ce qui était prévu avant, ils peuvent les garder jusqu'à 12 heures sans même avoir besoin de préciser la raison.
Ah, j'ai même jusqu'à 72 heures.
Ah oui, en fait.
Pour les étrangers.
Pour les étrangers.
Alors, 12 heures, c'est pour les manifestants, oui, pendant une durée de 12 heures. Et y a plein de choses, hein, de toute façon. Hein, apparemment, il y a plein de... ils ont prévu plein de petites...
Oui, et donc ils doivent avoir quand même très peur qu'il va y avoir un débordement. Et pourquoi ça ? Parce que je pense qu'il y a en effet beaucoup de choses qui s'organisent parallèlement à Copenhague. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que les enjeux de Copenhague, ça va finalement pas être peut-être pas forcément les intérêts de tout le monde. Il y a surtout les grands chefs d'État qui s'y retrouvent et surtout une grande présence de représentants des sociétés industrielles.
Oui, les lobbies industriels.
Les intérêts industriels qui sont très très puissamment défendus et qui sont là pour que les décisions qui soient faites à Copenhague soient en leur faveur. Et c'est ça le plus important.
C'est peut-être pour ça que d'ailleurs ils parlent beaucoup d'argent. Hein, parce que question chiffres, à Copenhague, il y en a un. Hein, on entend beaucoup parler. D'ailleurs, il y a la fameuse négociation aussi pour donner des sous aux pays émergents ou aux pauvres. Une des compensations. On sent que... l'économie, enfin les chiffres sont rois actuellement au sommet. Je vois.
Pour revenir à cette question de renforcement policier, donc qu'est-ce qui est vraiment organisé qui pourrait leur faire crainte ? Enfin, on parle de crainte, mais en fait, qu'est-ce qui est organisé à côté de Copenhague qui est plus ou moins, qui est plus ou moins pas prévisible dans le sens parce que les participants sont pas forcément connus. Et pourquoi ça peut leur faire poser un problème ? Il y a tout un tas de groupes
A priori, ils craignent que des gros débordements, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il y a 10 000 participants à un forum là, qui se fait en parallèle avec le sommet de Copenhague.
Tu parles de Climat Forum ?
Le Climat Forum, effectivement, qui va attirer beaucoup de monde.
C'est donc un forum parallèle qui au lieu de parler de... des problèmes économiques, privilégie plutôt l'écoute des sociétés, des groupes qui viennent de par ailleurs, de par le monde, et qui sont notamment des gens qui s'interrogent vraiment sur, pas que sur les problèmes climatiques, dans le sens qu'est-ce que ça va nous faire perdre en termes de chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que ça va nous faire perdre en termes de moyens de survivre et vivre, tout simplement. Ce Climat Forum
c'est peut-être l'aspect le plus intéressant du sommet de Copenhague, parce qu'il y a une grande discussion qui, justement, doit aboutir le 12 décembre, je crois.
Je pense que, justement, il y a une procédure qui se termine le 10, enfin pas le 10, non, le 12, je crois. Ils vont essayer de rédiger une déclaration qu'ils vont présenter au sommet de Copenhague, proprement dit, pour présenter donc tous les témoignages et les avis et les expériences des personnes qui ont quelque chose à apporter aux discussions, mais qui ne se seront peut-être pas fait entendre dans la conférence principale. Donc, les Climat Forum, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus? Enfin, c'était un très, très grand... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est...
Il y a beaucoup d'associations qui sont reliées à ce Climat Forum.
Déjà, pendant les mois qui précèdent, ils ont sollicité la participation de beaucoup de gens à travers le monde, notamment dans les pays en voie de développement, mais aussi les peuples indigènes. Il y a toutes sortes de... Alors, je crois qu'il y a donc 190 conférences, 50 expositions, 30 films, des documentaires, musique, théâtre.
Tout ça, c'est accessible à n'importe
qui.
Oui,
hein. En plus, c'est accessible et c'est libre. On peut y aller même en tant que journaliste sans avoir aucune autorisation si on veut avoir les informations D'accord. journalistiques. C'est très, très ouvert et apparemment aussi très divertissant, je pense. C'est très informatif. Donc, il y a par exemple aujourd'hui, j'ai regardé le programme d'aujourd'hui, ils vont adresser donc le jeudi 10 des questions de la déforestation.
Ah oui, ça c'est une grande question. Oui.
Je crois qu'il y a
un chiffre qui traîne quelque part sur justement la déforestation en Amazonie, qui est équivalente actuellement, après avoir eu un pic très important dans la décennie précédente, on serait autour de 7000 km² par an, ou quelque chose comme ça. Qui a baissé
par rapport aux années précédentes.
Oui, alors c'était terriblement plus les années précédentes, mais il y a quand même une prise de conscience, a priori, et du coup, voilà, c'est 7008
kilomètres carrés. Voilà. Qui sont détruits par an, cette année.
En 2009. Estimé en 2009.
C'est énorme.
D'ailleurs, la région amazonienne, c'est 6 millions de kilomètres carrés, 420 peuples indigènes. Donc il y a la question des peuples indigènes aussi qu'il faut préserver. Il y a 46 000 espèces de plantes. Là, j'ai un petit graphe aussi qui met en évidence l'émission de CO2 des pays émergents, où on trouve l'Afrique du Sud en tête, le Mexique et la Chine à peu près équivalents, le Brésil qui suit et l'Inde. Et ces pays émergents, ils ont un rôle capital dans les négociations d'ailleurs. Ce qui n'était pas le cas sur la précédente conférence.
Mmh. Donc à Climat Forum, ils donnent la parole également à des peuples indigènes. Il y a donc une petite conférence qui s'appelle Indigenous People Speak Out, les peuples indigènes s'expriment, et pour cette fois-ci sans censure, ils expriment donc, ils ont aussi des expertises eux-mêmes sur les forêts, puisqu'ils y vivent, et parlent de leurs expériences concernant le changement climatique. Et aussi, ils vont évoquer les droits de ces peuples selon la Déclaration des Nations Unies, parce qu'en fait, bien sûr, ils ont des droits, mais qui sont souvent un petit peu mis de côté. Et tout ça va aussi s'orienter vers ce qu'ils appellent une tribunal pour la dette écologique et la justice climatique. Donc, c'est un sujet dont on parle, je pense, très peu au sommet de Copenhague.
Je crois que c'est un sujet qui habilement évite de traiter, parce que c'est assez gênant pour les pays industrialisés très présents et qui n'ont pas trop envie finalement de faire d'efforts actuellement. Donc effectivement, je crois qu'il y a, il y a une déclaration hein, de ce regroupement qu'on pourrait lire éventuellement après une pause, petite pause musicale. Et donc on va lancer la petite pause musicale et on va vous lire ça après. Voilà, ça va arriver, le temps de lancer ça, tu nous l'as un petit blanc. Radioactivity, c'était le titre qu'on vient juste de passer. Et justement, c'est intéressant parce que, comme vous avez bien pu comprendre, on patauge un petit peu, on pédale dans la semoule. Le sommet de Copenhague, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et on a peut-être l'impression même que c'est un petit peu volontaire, cette confusion, et peut-être que l'aspect visible de ce grand rassemblement qui, final, ne va pas aboutir sur grand-chose. Et donc, on noie le poisson, on se rassemble tous pour parler, mais bon, a priori, rien ne se fera de spécifique et on reportera ça à la prochaine conférence, je crois, qui a lieu en 2010 à Mexico. Donc, Radioactivity, c'est un titre qu'on avait rajouté dans la playlist parce que il y a un petit problème avec le sommet de Copenhague, c'est qu'il y a quand même une présence des lobbies industriels assez importante. Dont le lobby industriel nucléaire, l'industrie nucléaire, qui nous présente cette énergie comme propre. Quand on la connaît, on peut se poser des questions. Et qui voudrait bien profiter justement de l'abandon du pétrole pour promouvoir son énergie. Et j'en reviens donc à une petite action qui s'est passée aujourd'hui à Copenhague du réseau Sortie Nucléaire International, qui a pour un petit peu souligner l'incohérence des propos de ce lobby bien présent, parce que ça a été même soutenu par la candidature française, l'incohérence de ces propos d'une énergie propre nucléaire a rajouté sur la statue de la petite sirène de Copenhague, c'est une petite statue célébrissime, un petit masque à gaz du type de ceux qu'on utilise lorsqu'il y a des retombées radioactives, pour bien souligner l'incohérence de ces propos. Voilà, c'était un petit peu pour ça le choix de ce thème musical. Et on va en briller sur la déclaration du Justice...
Climate Justice Action.
Voilà, l'accent anglais nettement mieux.
Il y a un regroupement
qui est très intéressante et qui résume bien plutôt la volonté générale des associations plutôt que celle des officiels qui est beaucoup trop floue.
Il y a donc une mouvance qui a permis à plusieurs organisations à travers le monde de se regrouper sous le titre de Climate Justice Action, l'action de la justice climatique. Qui représente la plus grosse partie, la grosse partie des manifestations qui s'organisent parallèlement à Copenhague, qui demande qu'on renonce à une mode de vie qui soit toujours dans le sens de la croissance, toujours avoir mieux et produire mieux et gagner mieux, plus d'argent, parce que ce mode de vie-là ne serait pas compatible avec une terre finie, avec des ressources limitées et avec une planète qui est donc pas habituée à, qui n'était pas destinée à déjà accueillir autant d'êtres humains. Parce qu'on sait que la population humaine est bien supérieure à ce que ça devrait être. Et donc, il suggère très fortement, puisque c'est ça le but de toutes ces manifestations qui vont s'organiser parallèlement, de trouver d'autres solutions aux problèmes climatiques. Donc, principalement, on va laisser les énergies fossiles sous la terre, collectiviser et décentraliser l'énergie, relocaliser notre production alimentaire, reconnaître, et ceci est très important, reconnaître et payer la dette climatique et écologique. Donc cette dette, bon, évidemment, bien envers la Terre, mais surtout envers les pays et les peuples qui ont le plus souffert, qui sont en train de souffrir le plus des effets de ce dérèglement climatique. Donc respecter aussi les droits des peuples indigènes et régénérer nos écosystèmes, parce que donc on va comprendre, je pense, que donc la mode de vie que les pays industrialisés ont mis en place depuis donc un certain nombre de décennies, depuis la révolution industrielle, ça conduit à un épuisement, on va dire, non seulement des ressources naturelles, mais également des ressources humaines.
La biodiversité.
C'est pour ça que, en fait, globalement, il y a une sorte de mise en parallèle avec donc la croissance et une mode de vie aussi avec la nature d'un système capitaliste qui serait responsable aussi de tous ces problèmes. L'appel à action, il s'appelle même « on ne répare pas un système foutu ». Voilà, donc le système serait ce qu'il faudrait apparaître et pas simplement se confronter à un problème climatique, parce que ce n'est pas le climat qui serait le problème, mais le système lui-même qui produit tous ces symptômes, dont le dérèglement climatique.
Donc etc. Une décroissance intelligente, en fait. Oui. Le développement d'un nouveau monde, même carrément, hein, parce que tout est basé sur le capitalisme. Même les pays les plus liberticides se tournent vers un capitalisme, enfin reprend le modèle du capitalisme. Et donc là, on va vers. Il faudrait remettre en cause le fondement de toutes nos sociétés pour recréer un monde qui prenne en compte notre environnement et puisse nous ouvrir un nouvel avenir, quoi, parce qu'actuellement, c'est un petit peu bouché. Hein.
Et cette notion même, je pense que c'est ça qui fait peur aux États, et même donc l'État représenté par les forces de l'ordre qui sont là pour défendre, probablement, j'espère pas, mais probablement avec une certaine violence, pour contrôler donc les gens qui vont venir manifester.
Oui, d'ailleurs, il y a un autre aspect, parce qu'il y a les gens qui font peur, ceux qui vont manifester, mais il y a aussi l'aspect de l'accord qui pourrait se transformer en accord liberticide. C'est une grande peur justement de ceux qui ont peur des écologistes, ceux qui appellent ça le fascisme vert, ou les Khmers verts. Ils ont un petit peu raison aussi, parce que c'est vrai que sous couvert d'un accord mondial, on pourrait très bien glisser par-dessous une espèce d'accord qui mette en place une gouvernance mondiale, par exemple, mais basée uniquement sur une nouvelle économie à deux échelles, ou dans un principe un petit peu féodal, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui décident et puis les autres qui se débrouillent avec les décisions, quoi. C'est un petit peu ça, d'ailleurs, à laquelle on se dirige avec les accords sous-entendus qui sont en train de discuter à Copenhague. Donc il y a cet aspect-là, hein, où il faut être très vigilant. Profiter d'une espèce de convergence mondiale sur un thème pour dériver et mettre en place une nouvelle économie qui aurait aucun rapport avec la défense, ou du moins peut-être un rapport, mais un rapport forcé ou proprement liberticide. Donc uniquement en faveur d'un certain nombre de gens. Voilà. On va essayer de résumer un petit peu l'affaire Copenhague, on va l'appeler comme ça, parce que c'est pas simple, et il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, la conférence de Copenhague, c'est quoi ? C'est à Copenhague, déjà. C'est 193 pays, environ. Les enjeux, c'est limiter le réchauffement climatique, dont les modèles futurs sont définis par le GIEC. Les risques, c'est une inaction, a priori.
Voilà, on pourrait simplement attendre en espérant que ça va s'arranger, mais plus on attend, plus ça va s'aggraver.
Et plus
on ne peut pas revenir en arrière.
Et sans possibilité de revenir en arrière. Bien sûr, au détriment des pays qui polluent le moins, ce qui pose un petit problème justement, là, ce qui peut dire qu'il est peut-être la source du malaise de Copenhague, parce qu'on pourrait l'appeler aussi comme ça, le sommet. C'est-à-dire les sommets riches, les pays riches. Polluent beaucoup, mais ne veulent pas vraiment trouver de solution, tandis que les pays pauvres ils subissent et voudraient bien trouver une solution.
J'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui, qui a même l'intervention des compagnies d'assurance.
Ah bon ?
Parce qu'apparemment, selon l'article que j'ai lu dans Libération, les compagnies d'assurance seront les partenaires des écologistes, des environnementaux, les gens qui militent pour l'environnement, parce qu'en fait, eux, ils ont vraiment besoin de contrôler les problèmes liés au climat, parce que c'est les compagnies d'assurance qui vont se retrouver à payer quand il y aura des problèmes.
C'est même impressionnant, parce que avant la crise de 2008, la crise économique de 2008, l'effondrement des bourses, il y a eu une spéculation, notamment au niveau des assurances, sur les conséquences du réchauffement climatique, et les dégâts ont été chiffrés. Et c'est ça qui est impressionnant, déjà, parce que la finance prend toujours le pas un petit peu d'avance sur l'économie réelle, et ils ont chiffré les conséquences. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que c'était un peu trop, quoi. C'est pas gérable, mais c'est assez intéressant de savoir que les assurances suivent.
Et le bémol, par contre, de cet article, c'était que les compagnies d'assurance ont quand même précisé qu'ils ont des actionnaires qui doivent satisfaire et que, de toutes les façons, ils ne pourront pas assurer tout le monde. Donc,
évidemment
c'était sous-entendu qu'ils n'allaient pas pouvoir assurer les pays qui étaient le plus à risque.
Ça fait partie de la mauvaise volonté générale, quoi, en gros.
Donc encore, ils étaient là pour défendre leurs intérêts, finalement.
Ouais,
mais bon, quand même, ils sont là pour trouver des pour pousser vers une solution réelle et pas simplement déplacer le problème vers la recherche d'une nouvelle croissance verte qui serait une alternative à notre croissance actuelle.
Tout à fait. Alors, quand même, je crois, le plus intéressant, c'est ce qui va se passer à l'extérieur de Copenhague, les coulisses de Copenhague. C'est le Climate Forum.
La fameuse Climate Forum. On attend avec impatience savoir ces déclarations qu'ils vont produire à cette fin de semaine et qu'ils vont livrer au sommet de Copenhague. Et on attend à savoir comment les pays qui vont décider, comment ils vont recevoir et comment ils vont se trouver l'inspiration dans ce document. Je pense que ça va être vraiment très intéressant parce que c'est justement...
Si on tape Climate Forum sur Yahoo, on peut trouver
oui,
des informations.
Oui, en fait, ça s'écrit avec un K. K-L-I... Il faut bien préciser, c'est Climat. K-L-I-M-A Santé. Forum. F-A-F-O-R-U-M. Mais c'est malheureusement le document plus ou moins en anglais. Mais je pense qu'on va avoir la traduction en français une fois que la déclaration sera rédigée.
Voilà, l'émission se termine. Donc, vous avez pu comprendre que c'est pas simple, Copenhague, mais il faut être vigilant parce que c'est notre avenir qui se joue. Et donc, il est probable qu'une autre émission soit lancée sur le même sujet, en espérant que ce soit plus clair pour nous comme pour vous comme pour nous. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine.
Et rentabilité ne laisse pas de place pour la qualité. Pas de pitié sur le marché. L'économie doit tout dévorer. Aujourd'hui encore, les aliments proviennent de la terre. Mais depuis quelques années, la productivité